Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, nous allons évoquer la Jérusalem terrestre des chrétiens en présence de Michaël Jasmin, auteur d'un Que sais-je sur Jérusalem sorti en 2018. Bonjour Michaël.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur en archéologie orientale et à côté de vos travaux savants, plus sérieux, dirais-je, vous avez relevé le défi de retracer 4 millénaires d'une histoire aussi chahutée que fascinante, où vous intégrez aussi les toutes dernières interprétations archéologiques. Voilà. Alors j'étais étonné parce que cette histoire de Jérusalem en Que sais-je est une première. Donc il n'y avait pas de Que sais-je sur Jérusalem avant votre travail. Il faut remarquer que le livre est déjà à sa 2e édition. Je crois que la 1ère édition est épuisée, donc c'est un très bon succès. Le livre est sorti en 2018 et il est à 9 €. Voilà. Donc vraiment j'encourage à se le procurer. Alors nous ne pouvons pas évoquer les 4 millénaires dans son ensemble.
Non.
Voilà, vous en conviendrez, ce serait imprudent. Par contre, nous allons nous intéresser à cette période chrétienne, donc qui commence avec Constantin, et nous allons évoquer la figure du Saint-Sépulcre, voilà, pour ceux qui connaissent la ville millénaire.
Tout à fait.
Quelle est la première présence chrétienne à Jérusalem?
Alors, la première présence chrétienne, effectivement, elle va s'opérer, on pourrait même dire, en fait, il faut dire, avant Constantin. Il est évident que le 4e siècle va marquer des transformations majeures, religieusement, architecturalement, dans cette présence impériale de cet empire romain d'Orient, où Constantin a un rôle charnière et fondateur. Évidemment, les 3 siècles précédents, il s'est passé des choses, hein, puisqu'on pourrait dire que tout commence, voilà, dans les premières décennies de notre ère, à un moment, voilà, où le temple d'Hérode le Grand existe, Jérusalem est traversée par Jésus, et où ont lieu, voilà, les différents événements relatés dans les évangiles. Alors, effectivement, c'est peut-être un premier problème, c'est qu'est-ce qui se passe entre 30 et 330 à peu près de notre ère, ou 325, lorsqu'il y a cette décision de construire cette basilique du Saint-Sépulcre, dans un contexte religieux quand même aussi, ou spirituel, très particulier. Donc voilà, je dirais archéologiquement, on a très peu de choses sur ces 3 premiers siècles.
Alors peut-être faut-il resituer votre méthode par rapport à nous, enfin qui est la méthode de l'archéologue moderne. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, vous l'expliquez très bien dans votre premier chapitre, dans votre introduction. Voilà, on prenait la Bible pour un livre d'histoire et l'archéologie devait servir à vérifier ce qu'il y avait dans la Bible. Bon, on est revenu de ce point de vue, mais finalement vous avez une méthode un peu intermédiaire, c'est-à-dire que vous êtes un lecteur des textes anciens, bien entendu, comme tout bon archéologue spécialisé sur cette partie du monde. Mais vous dites pourquoi pas finalement, ou pas?
Bien sûr, pourquoi pas. Je crois qu'on est actuellement dans la recherche archéologique, historique, dans une phase où voilà, on ne jette plus l'eau du bain avec le bébé. C'est-à-dire que ce n'est pas, on ne peut pas faire reposer toute, je dirais, la véracité historique sur les textes anciens. C'est bien évident, on a une lecture très critique. Et on ne peut pas faire de l'archéologie ou écrire de l'histoire sans inscrire la rédaction de ces textes dans un contexte voilà qui est multiple, hein, qui est ces textes saints, je pense, hein, Ancien ou Nouveau Testament, qui est religieux fondamentalement, mais où il y a aussi des tenants vérifiables, c'est toujours délicat, mais un contexte historique qui fait sens. Donc bien sûr, il est nécessaire de tout prendre en compte, et je dirais d'autant plus que il y a beaucoup de choses en jeu. Dès lors que l'on parle, voilà, de ces premiers siècles du christianisme et de cette période byzantine, dès lors qu'elle se met en place à Jérusalem.
Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est le christianisme politique, si je peux
tout à fait,
me permettre d'utiliser cette expression. Nous ne sommes pas donc dans les évangiles, nous n'allons pas évoquer le parcours ou pas, véridique ou pas, de Jésus dans cette Jérusalem ancienne, mais plutôt voilà, sur les premières traces d'un christianisme historique, disons. Alors, il y a le Saint-Sépulcre, bien entendu, on y reviendra, mais j'aimerais vraiment que vous nous évoquiez un peu avant le récit de ces voyageurs, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... enfin, quelques textes qui racontent et décrivent la ville.
Tout à fait. Ces récits des voyageurs sont une documentation exceptionnelle. Le premier d'entre eux, c'est ce pèlerin de Bordeaux. C'est un anonyme, mais voilà, certainement un personnage avec des responsabilités. Et il vient à Jérusalem. C'est donc, il a laissé une description détaillée de tous les lieux qu'il visite. Et il est, voilà, on pourrait dire un peu le premier de ces pèlerins, dans ces années 330 et quelques. Alors que le Saint-Sépulcre a commencé à être construit, vous voyez, à peu près entre 325 et 335, donc il y a déjà cette dynamique architecturale qui a été mise en place et décidée à Constantinople par Constantin, selon les vœux ou l'appel donc de sa mère Hélène, de la mère de Constantin, et c'est dans ce contexte donc de grande transformation, de construction de ce bâtiment qu'il vient à Jérusalem et puis il visite tout un tas d'autres lieux. Et il est le premier donc d'une longue série au cours des siècles suivants, on pourrait dire voilà au moins voilà jusqu'à la période musulmane, donc le milieu du 7e siècle, 650 à peu près. Vous voyez donc où sur 3 siècles, alors on n'en a pas des dizaines, des récits de pèlerins ou des bon, mais ils sont suffisamment détaillés pour nous faire comprendre comment s'opère la transformation religieuse de la ville. Il est évident que ce n'est pas un beau matin que tout Jérusalem devient chrétienne. Et de la même manière, ce n'est pas parce que Jérusalem est prise par les musulmans que, en 10 ou 20 ans, Jérusalem devienne musulmane. On est de l'ordre, voilà, c'est de l'ordre des mentalités. Et les mentalités religieuses sont, on le sait, très conservatrices, très lentes à évoluer. Et ça prend des décennies et parfois même un siècle. Et on le voit bien, justement, dans le regard porté par ces pèlerins, je dirais, avec le bagage imaginaire religieux qu'ils expriment ou qu'ils transposent dans leur lecture des vieilles pierres de la ville. Et donc, on le voit avec ce pèlerin de Bordeaux, dans ses années 330, ou avec Égérie.
Une
pèlerine espagnole, très aventurière, qui va en Jordanie, qui visite tous les lieux saints possibles, Nouveau Testament, Ancien Testament. On voit bien que, au cours de ce 4e siècle, ce qui est prégnant dans leur imaginaire religieux, c'est l'Ancien Testament. C'est-à-dire que les lieux sont avant tout reconnus pour la filiation qu'ils permettent d'opérer religieusement entre Ancien et Nouveau Testament qui est en train de s'inscrire dans les localités, dans les pierres de ce 4e siècle. C'est-à-dire que voilà, on voit comment s'organise, se crée ce qui deviendra ces lieux de pèlerinage. Et donc voilà, on pourrait dire durant ce 4e siècle, Jérusalem devient lentement chrétienne. Et lorsque des pèlerins, peut-être un siècle plus tard, du temps de l'évêque Juvénal, en 430, on voit, un siècle après le pèlerin de Bordeaux, les références à l'Ancien Testament disparaissent quelque part, ou la topographie religieuse et imaginaire de l'Ancien Testament disparaissent de ces écrits des pèlerins, et est remplacée par une vision uniquement chrétienne et très centrée sur le Saint-Sépulcre pour ces pèlerins. Donc vous voyez, quelque part, ça prend un siècle, ce qui n'est pas rien, pour que Jérusalem devienne imaginairement et terrestrement, si je puis dire, chrétienne.
Alors il y a eu un passage d'une personnalité conséquente pour l'époque, alors un passage réel ou supposé de l'impératrice Hélène, donc la mère de Constantin. Alors pardonnez-moi cette familiarité, mais peut-être s'agit-il d'une grande opération de communication à l'époque et qui tout d'un coup donc la vraie croix réapparaît et qui tout d'un coup remet Jérusalem sur la carte du monde chrétien
Oui, bien sûr. C'est comme vous disiez, c'est un christianisme politique. C'est un choix qui est politique, religieux. Je crois, on remet pas en question là. la réalité de la conversion de Constantin, de sa mère tout d'abord, et puis de Constantin. Sans doute y croit-il vraiment?
Oui, vous le dites là, sans aucun embâge. Voilà, les historiens s'accordent sur la conversion de Constantin.
Voilà,
la conversion.
Mais évidemment, ce qui porte à conséquence, c'est beaucoup moins sa conversion personnelle que le choix d'engager l'ensemble d'une dynamique impériale dans ce passage. Hein, on pourrait dire voilà, d'un polythéisme au monothéisme chrétien. Et alors, voilà, la position de Jérusalem, elle est un peu entre deux. Vous voyez, il ne s'agit pas que Jérusalem, c'est là où tout s'est passé quelque part pour Jésus, mais il ne s'agit pas de doubler Constantinople dans sa vocation à être capitale impériale par Jérusalem. C'est un lieu qui va faire l'objet de pèlerinages. Mais voilà, il faudra un certain temps aussi pour voilà, quelque part, il ne faut pas accorder trop de pouvoir à Jérusalem.
Est-ce qu'il s'agit d'une capitale religieuse peut-être ou pas vraiment?
Eh bien, justement, ça prend du temps à se mettre en place. Sans doute, voilà, sans doute un siècle pour qu'elle accède à un rang, voilà, comme lieu d'une centralité religieuse, voilà, comme Constantinople, Rome, Alexandrie, enfin bon, ou d'autres villes qui l'acquièrent, hein, beaucoup plus rapidement. Il y a une certaine réticence parce que à trop mettre en avant Jérusalem, bien quelque part, ça peut peut-être aussi affaiblir le rayonnement politique, voire on pourrait dire un peu spirituel de Constantinople. Bon, donc en tout cas, voilà. Mais il y a une opération, évidemment, de mise en place du lieu essentiel religieux de la chrétienté, voilà, qui est le Saint-Sépulcre à Jérusalem.
Ça, et sur ce voyage de l'impératrice Hélène, alors que ça.
Alors, bon, ce sont les selon les écrits, hein, surtout de liés au pouvoir et qui racontent la vie de l'empereur et bon de sa famille. Donc quelque part, on peut dire, on a affaire à un discours cadré qui cherche à de propagande en quelque sorte. Hein. En tout cas, voilà, ce qui est important, il y a ce rêve hein, qu'elle opère, qui lui indique le lieu où se trouve la vraie croix dans cette partie d'ancienne carrière souterraine. Hein, actuellement, c'est dans les parties les plus basses. On pourrait dire, c'est au deuxième sous-sol du Saint-Sépulcre. On est à une quinzaine de mètres sous la surface. Et donc, dans cette ancienne carrière souterraine, on voit encore toutes les marques d'une carrière et qui remonte à plusieurs siècles avant notre ère. C'est dans ce lieu, ce qu'on appelle la chapelle de Sainte-Hélène, que la vraie croix aurait été retrouvée. Et le fait que ce soit dans le cadre d'un rêve, voilà, ça ajoute à, quelque part à la dimension miraculeuse. Hein, on pourrait dire ça décrédibilise. À l'époque, au contraire, le message divin qui l'aiguille ou qui l'aimante en direction de cet objet saint par excellence à retrouver, évidemment, il passe par cette connexion durant le sommeil. Donc, quelque part, ça valide la dimension miraculeuse de cette redécouverte. Et à partir de là, voilà, elle en parle à son fils. Et elle lui dit, voilà, il y a cette décision donc de lancer cette construction du Saint-Sépulcre qui va englober les lieux des derniers moments de la vie de Jésus.
Avant ce Saint-Sépulcre, il faut faire donc il y a cette carrière, il faut faire des travaux d'aménagement. Mmh. Et vous évoquez la présence peut-être d'un temple dédié à Vénus.
C'est une question très troublante et assez difficile à résoudre, hein, aussi bien historiquement qu'archéologiquement. Il y a effectivement des fouilles qui ont été faites par des archéologues, un archéologue israélien dans les années 70-80, du côté de la chapelle arménienne. Là, on est au premier sous-sol.
Oui, hein, alors décrivez-nous un petit peu. Donc, on était à moins 15 mètres.
Voilà, alors là, on est, ça mène à cette partie la plus profonde.
Ce sont des parties qu'on ne visite pas.
Si, tout à fait, bien sûr, bien sûr. On y a accès, hein, c'est-à-dire, c'est là. C'est la partie, on pourrait dire, arrière, quand vous entrez dans le Saint-Sépulcre, depuis cette petite esplanade. Si vous allez complètement à droite, vous avez des volées de marche avec des croix creusées par les croisées sur les pierres. Et puis, vous accédez donc à la zone arménienne du Saint-Sépulcre, on pourrait dire premier sous-sol. Et puis, si vous continuez à peu près 6-7 mètres, et bien voilà, là vous êtes dans cette ancienne carrière qui est dédiée ou nommée voilà, chapelle de Sainte-Hélène. Donc voilà, tout n'est pas accessible. Hein. Bon, en tout cas, des fouilles ont lieu dans cette zone et est mise à jour la partie, le bord d'une construction en grand appareil romain qui, selon l'archéologue israélien, eh bien appartiendrait au soubassement ou à le bord extérieur qu'il assimile à un temple. Et effectivement, alors bon, on a très peu de récits là-dessus, mais il y a cette idée, cette possibilité, évidemment par certains, que un temple dédié à Vénus aurait été construit à l'emplacement, alors peut-être, d'un proto-culte qui se serait développé peut-être par ces proto-chrétiens. Et du temps de Hadrien, donc on est en 130, vous voyez, donc un siècle après Jésus-Christ, c'est une hypothèse, hein, je m'avance pas plus, mais pour certains, ou en tout cas, je dirais, quand archéologiquement on essaye de dire, voilà, quelles sont les traces de ces premiers proto-chrétiens, certains disent, bah voilà, le fait qu'il y ait ici la construction d'un temple dédié à Vénus est justement la réponse donnée par Hadrien à un premier lieu de pèlerinage de proto-chrétiens qui vénéreraient ce qui s'y serait passé un siècle précédent, c'est-à-dire, vous voyez, entre 30 et 130.
C'est-à-dire,
c'est une hypothèse.
Un temple officiel de
un temple officiel,
pour,
quelque part.
Pour briser cet élan?
Quelque part, voilà, voilà. Donc évidemment, mais on ne sait, on n'est pas sûr que ce soit un temple, on n'est pas sûr qu'il soit dédié à Vénus. Certains disent que ça serait peut-être Jupiter. Bon, ça apporte des éléments, puis en même temps, ça jette un certain trouble. Bon, voilà, en même temps, on est près du centre de la ville, donc on peut imaginer qu'un temple y ait été construit, comme il y en avait d'autres, et qu'il n'était pas forcément là pour, comme vous dites, vous voyez, pour briser une première dynamique de pèlerinage de proto-chrétiens. On ne sait pas, voilà, on n'est pas en mesure de répondre. En tout cas, voilà, il semble bien qu'il y a une transformation importante, ou en tout cas une prise en main sous Hadrien de tous ces lieux, avec des constructions imposantes, en partie et sans doute pillées et récupérées. Le temple est évidemment démantelé deux siècles plus tard, lorsque les Byzantins vont construire la basilique du Saint-Sépulcre.
Et très certainement les pierres réutilisées.
Exactement.
Pour la construction de ce nouveau bâtiment.
Voilà.
Le Saint-Sépulcre est construit en combien de temps? Ça va très vite, je crois.
À peu près une dizaine d'années. On considère, voilà, à peu près, sans doute une dizaine d'années.
Ce qui ferait l'un des bâtiments les plus anciens de la chrétienté de l'époque constantinienne?
Oui. Non, sans doute. Bien sûr, oui, oui. Alors, les traces actuelles sont, voilà, il y a eu des destructions, des reconstructions. On est surtout actuellement confronté à un bâtiment architectural et à une organisation qui est de la période des croisés, hein, du XIIe siècle. Mais voilà, il y a tout un tas d'endroits ou de parties de plans où on a retrouvé des éléments qui remontent à la période du IVe siècle.
Alors Michael Jasmin, nous ferons une autre émission sur l'étude et l'observation de l'espace. Voilà, ce partage de l'espace du Saint-Sépulcre entre toutes les communautés, hein, qui donne chaque semaine sainte, je crois, à des échanges assez musclés.
Parfois, oui.
Parfois, voilà. Quel serait le dernier grand mystère, selon vous, à résoudre à propos du Saint-Sépulcre? Qu'est-ce qu'il y a alors?
Et c'est difficile de résoudre. Bon, sans doute, ces premiers siècles, hein, posent problème. Voilà, c'est toujours cette question. Et je dirais pour l'essentiel des lieux saints et lieux de pèlerinage chrétien en Terre Sainte, hein, qu'est-ce qui se passe entre 30 et 330? Hein, on voit bien qu'il y a une dynamique impériale qui, au IVe siècle, transforme pour les pèlerins, les lieux. Ce Saint-Sépulcre de la période byzantine, évidemment, n'a pas livré tous ses secrets. C'est toujours, c'est délicat et difficile, hein, d'intervenir et de commencer à faire des fouilles, hein, dans cet espace-là. C'est certes un site archéologique, mais c'est avant tout un lieu sacré de pèlerinage. Donc, une restauration, c'est une chose, mais pendant des mois, bloquer des espaces pour des fouilles, voilà, c'est toujours plus difficile. Même si il y a des possibilités, je dirais une ouverture des différentes communautés chrétiennes installées dans le Saint-Sépulcre pour que l'archéologie, quelque part, vous voyez, puisse un peu valider l'ancienneté de leur présence, hein, pour chacune de ces communautés, d'ailleurs.
Alors, Michael Jasmin, vous organisez vous-même des voyages à Jérusalem, vous accompagnez parfois des groupes. Quelle est votre émotion quand vous entrez dans le Saint-Sépulcre?
C'est un lieu, ce qui me touche toujours, hein, c'est justement devant les portes, avant d'entrer dans le Saint-Sépulcre, je pense à toutes ces autres églises de par le monde, qui représente sur des tableaux, des fresques, des mosaïques, les moments, les derniers moments de la vie de Jésus, c'est-à-dire que ces églises sont tournées vers Jérusalem ou font référence à ce qui s'est passé à Jérusalem. Et lorsqu'on va entrer, hein, dans ce Saint-Sépulcre, eh bien là on se dit, voilà, c'est ici que tous ces lieux de culte de par le monde font référence. On est dans le lieu où s'est déroulé ces choses-là qui sont voilà au cœur, au centre, à la fondation de la dynamique religieuse chrétienne. Et voilà, moi c'est quelque chose qui effectivement qui m'émeut. De me dire que il y a ce point de centralité évidemment très fort. Alors après, quand on rentre dans le Saint-Sépulcre, c'est toujours plus difficile, je trouve, de trouver des espaces plus calmes, de recueillement, parce que
il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde. Oui.
On parle toutes les langues. C'est véritablement une ville universelle.
De ce point de vue-là, tout à fait. Oui. C'est un espace universel.
Nous étions ce matin en compagnie de Michael Jasmin autour d'une histoire de Jérusalem. Je fais référence à un Que sais-je qui a été publié en début d'année dernière. Voilà, Que sais-je, 9 euros, présent dans toutes les bonnes librairies. Merci Michael.
Merci à vous également.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Je remercie Dany Journeau, Claire Poinsignon et Cédric Châtelus pour la réalisation et la technique de cette émission. Nous retrouvons maintenant sur l'antenne de France Culture le service protestant. Bon dimanche.